D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Un matin de 1835, un passant qui se promène sur les berges de la Seine, près de Meudon, aperçoit un chapeau posé sur une canne fichée en terre. Il ne peut pas se dire que cet insolite spectacle ressemble à un tableau de Magritte, puisque Magritte n'existe pas encore, mais il pourrait lui donner le titre de « Ceci est un peintre ». C'était un peintre, en effet. C'était sa canne, c'était son chapeau, ceux du baron Gros. Gros s'était suicidé en se laissant aller dans le fleuve, n'en pouvant plus d'être moqué et méprisé. Le 4 octobre 1999, il y a presque exactement 17 ans, on retrouvait dans une maison du Var le grand corps d'un homme de 71 ans, mort, un sac en plastique sur la tête. Cet homme, un peintre qui avait aimé le baron Gros, s'était suicidé par asphyxie. On a dit que Bernard Buffet n'avait pas supporté sa maladie de Parkinson. Or, il était lui-même moqué et méprisé. Ne se serait-il pas tué par épuisement de ce mépris universel ? Symboliquement, très symboliquement, le sac avec lequel il s'est étouffé était un sac de son galeriste qui portait sa propre signature. Le peintre déçu semble avoir tué l'homme blessé. Y a-t-il un regain d'estime envers le peintre Bernard Buffet ? Sa cote est basse dans les milieux culturels, mais en même temps, il est intéressant de constater qu'elle n'est pas complètement tombée dans les ventes publiques. Cela ne prouve rien d'ailleurs, des mauvais peintres comme Bastien Lepage se maintiennent très bien aux enchères. Il serait aberrant de chercher la moindre rationalité du goût dans ces choses. Quelqu'un qui est propriétaire d'une maison de vente, et cette maison est de Rouault, pourrait nous en dire davantage. Et davantage encore à propos de Bernard Buffet, puisqu'il a vécu avec lui au moment où il entreprenait de conquérir Paris dans les années 50. Quel est le secret professionnel de Bernard Buffet et de la société française, alors que le musée d'art moderne de la ville de Paris organise une rétrospective de son œuvre du 14 octobre au 26 février prochain? Je reçois pour en parler Pierre Berger. Pierre Berger, un point d'histoire pour commencer, si vous voulez bien. Dans « Les jours s'en vont, je demeure », vous écrivez « Il avait 20 ans, j'en avais 18 ». Ma question est, n'en aviez-vous pas 20 et lui 22? Car selon Stéphane Laurent, dans sa biographie « Bernard Buffet, le peintre crucifié », c'est en 1950 que vous êtes connu, et sauf erreur, vous êtes de 30.
Oui, je suis de 30, mais de la fin 30, du 14 novembre. Et j'ai connu Bernard en mars-avril, donc j'avais 19 ans.
Alors Buffet était déjà très connu quand... Non. Quand vous l'avez rencontré ?
Buffet était connu, il avait même obtenu le prix de la critique, mais ça s'arrêtait là. Il n'était pas le peintre célèbre qu'il allait devenir.
Alors, Pierre Berger, comment s'est passée la rencontre ? Je crois que vous travailliez dans le 6e arrondissement chez un libraire à ce moment-là.
Oui.
Alors, comment s'est passée cette rencontre ?
Je travaillais chez un libraire, et c'est à cause de ça, grâce à ça, que j'ai connu Bernard Buffet, puisque ce libraire m'a dit « Il faut que je reste ouvert ce soir tard, car on fait un reportage sur Bernard Buffet. Ça se passera dans le café à côté, qui s'appelait Constant. C'était 20 rue de Seine, mais ils n'ont pas la force de courant nécessaire. Alors ils viennent se brancher chez moi, j'ai accepté. » Voilà. Et moi, j'ai été dans ce café et j'ai connu Bernard Buffet là. Et je me rappelle la première phrase qui m'est dite, parce qu'on était devant le comptoir. « Est-ce que vous savez jouer au 421 ?» Ben, j'ai dit non. Ben, il m'a dit « Je vais vous apprendre. »
Et est-ce que vous saviez qui il était à ce moment-là ?
Bien sûr, je savais qui il était, parce que cette librairie était en face de la galerie Visconti, et que la galerie Visconti était un des deux marchands de Bernard Buffet.
Et vous connaissiez sa peinture, ou c'était juste un nom que vous connaissiez comme ça ?
Non, je connaissais un peu sa peinture, puisqu'elle était exposée en permanence en face.
Donc il n'a pas eu besoin de vous dire « Bonjour, je suis Bernard Buffet, peintre ».
Non, ça, c'était fait.
Ça, c'était fait. Et alors, je crois que vous avez passé la journée ensemble, vous le racontez dans « Les jours s'en vont, je demeure », et il y a une histoire d'hôtel assez... pittoresquement parisienne.
C'est pas le jour même. Il ne faut pas exagérer. Nous ne sommes pas rencontrés, nous ne sommes pas rués dans un hôtel une minute après. Ça, c'est dans les romans que ça se passe, peut-être. Non, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes revus, et puis voilà, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis, on était là, fallait bien faire quelque chose et trouver un lieu, un soir. Et nous sommes allés dans un hôtel, rue des Canettes, l'hôtel de la rue des Canettes, qui est un peu un hôtel de passe, était tenu par Céleste Albaret. Et pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, Céleste Albaret était la célèbre gouvernante de Proust, de Marcel Proust.
Comment est-ce que vous êtes intervenu dans ces affaires pour l'aider ?
Mais écoutez, au début, je ne l'ai pas beaucoup aidé, mais après, petit à petit, j'ai pris de l'importance. Évidemment que j'ai pris de l'importance dans sa vie, puisque nous vivions ensemble. Vous savez, il faut que vous compreniez, je vais vous dire quelque chose, et en vous le disant, je vais m'étonner moi-même, parce que je serai incapable de le faire aujourd'hui, et j'ai été incapable de le faire après. Pendant ces 8 années, nous n'avons pas pris un repas séparé. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Nous n'avons pas passé une nuit séparée. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et je me demande, je vous dis que je m'étonne moi-même, parce que je me demande comment cela a été possible. Voilà. Mais c'était comme ça. C'est ce qu'on appelle vivre en osmose. C'est bien pour ça que je porte sur mon attitude quand je l'ai quittée un jugement pas très valorisant.
Alors, avant d'en revenir à cette affaire intime, Pierre Berger, comment vous êtes, est-ce que vous êtes intervenu dans la gestion de ces affaires, puisque nous savons très bien que vous avez fait ça. Donc, comment ça s'est passé ?
Petit à petit, je suis intervenu, soyons précis, légèrement, parce que je ne suis pas un hussard, je ne bouscule pas tout, mais j'ai fini par faire comprendre à ces marchands qu'il faudrait payer mieux, qu'il faudrait payer dans d'autres conditions, qu'il pouvait garder des œuvres pour lui, enfin, toute une petite histoire. Mais ça s'est très bien passé.
Alors, est-ce que vous vous êtes occupé de lui aussi pour sa notoriété, si je puis dire ? Est-ce que vous lui avez présenté des tas de gens ? On dit dans cette biographie que je citais tout à l'heure que vous lui avez amené l'acteur Edward G. Robinson, Simone de Beauvoir, un ministre de l'Éducation nationale avec ses motards. Est-ce que c'est vrai tout ça ?
Mais non, c'est pas vrai. Tout ça est faux. C'est pas moi qui ai fait ça. Comment aurais-je pu faire ça ? J'arrivais de La Rochelle. Je connaissais pas Simone de Beauvoir. C'est pas vrai d'ailleurs ça. Simone de Beauvoir, je l'avais rencontrée dans le mouvement de Gary Davis. Donc je m'étais occupé. J'avais rencontré Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, et Raymond Queneau, et André Breton, et bien d'autres. Mais cela ne nous intéressait pas à Buffet.
Mais ce qui est vrai, c'est Giono.
Ah, mais ce qui est vrai, c'est Giono, bien sûr.
Car vous connaissiez Giono, au moins par correspondance, avant d'avoir rencontré Buffet, n'est-ce pas ?
Bien sûr, bien avant même. J'ai connu Giono par correspondance, j'avais 15 ans. Parce que j'avais déjà fait un journal, créé un journal au lycée, Eugène Fromentin, La Rochelle, qui s'appelait Dominique, bien sûr, à cause d'Eugène Fromentin. Et j'avais écrit à Giono, voilà, pour qu'il me donne une petite collaboration, ce qu'il n'avait pas fait d'ailleurs. Et puis après, j'avais écrit à Giono, parce que je voulais être objecteur de conscience. Et puis, vous savez que Giono avait été un grand pacifiste, avait écrit avant la guerre un livre qui avait fait scandale et qui lui avait valu de la prison, qui s'appelait Refus d'obéissance. Donc, pour moi, Giono était la personne idoine pour me conseiller. Il m'a conseillé d'ailleurs de ne pas être objecteur de conscience. Et alors, un jour, quand je suis descendu avec Buffet, quelque temps après l'avoir rencontré, à Séguré, Vaucluse, à côté de Vaison-la-Romaine, j'ai appelé Giono et nous sommes allés le voir. Et cette rencontre, qui devait être que d'une journée, a été de plusieurs années. Pendant un an entier, nous avons habité chez Giono, chez lui. Et vous savez, c'était formidable parce que nous venions, Bernard et moi, le matin à 11h et il nous lisait les deux pages qu'il avait écrites le matin. Et c'était une bonne cuvée, puisque c'était le hussard sur le toit. Et puis plus tard, nous avons, pas acheté parce que nous n'avions pas d'argent, mais nous avons loué une ferme à quinzaine de kilomètres de Manosque, de chez Giono donc. Et c'était au milieu de nulle part, à 5 km de toute habitation, Rayan d'un côté, Vacher de l'autre. Et quand l'hiver, si le chasse-neige ne passait pas, nous pouvions être bloqués pendant deux jours ou trois jours. Et il n'y avait pas de chambre froide, et il n'y avait pas de frigidaire, et il n'y avait pas de congélateur, et il n'y avait rien.
Et Buffet travaillait là, il avait un atelier.
Buffet avait un atelier immense, il travaillait là.
Comment est-ce qu'il pouvait travailler à la campagne, lui, qui est un peintre essentiellement urbain, des rues, des... Il peignait donc d'imagination, c'est intéressant.
Il a toujours tout peint d'imagination. Il n'a jamais eu un modèle.
Est-ce que l'amour pour vous, Pierre Berger, pour les créateurs, va aussi, et je vous dis ça aussi à cause de Saint-Laurent, avec l'amour du succès? Car vous avez, dans ces deux cas, et dans le cas de Bernard Buffet, assisté à l'éclosion d'un grand artiste, ou d'un plus ou moins grand artiste, et qui a eu, sous vos yeux, une éclosion prodigieuse de succès.
Vous savez, Charles Danzig, les créateurs qui n'aiment pas le succès, je n'y crois pas. Le créateur dans la chambre de bonne, qui sait que la gloire posthume va venir le saluer d'un coup d'aile, je n'y crois pas. Quand on écrit ou qu'on peint ou quoi que ce soit d'autre, c'est pour tout de suite. La gloire posthume, ça n'intéresse personne. Et particulièrement dans notre siècle, enfin le 20e siècle, particulièrement 20e siècle. Alors, et Buffet et Saint-Laurent, ils avaient qu'une envie, c'est d'être connu, mais il faut savoir ce qu'on veut dire par la gloire. C'est de rencontrer la gloire. Moi, j'ai dit qu'ils ont dévalisé la gloire. Parce que la gloire ne se laisse pas approcher. La gloire ne se laisse pas séduire. La gloire, il faut la violer.
Vous parlez comme Cocteau. On voit bien que vous l'avez rencontré, parce que dévaliser la gloire, Cocteau aurait pu le dire.
Oui, je ne sais pas s'il l'a dit.
Mais non, je vous disais ça, pas tellement par rapport à leur attitude vis-à-vis du succès. Oui. Je comprends qu'ils le veuillent et ils ont bien eu raison. Mais pour vous, c'est-à-dire, ça doit être particulièrement exaltant quand on est amoureux de quelqu'un et d'assister à cette éclosion prodigieuse.
Ben, naturellement, je ne vais pas vous dire le contraire.
Ah, Pierre, vous dites ça, mais on pourrait concevoir que dans une affaire d'amour, ça peut être très compliqué, parce que tout d'un coup, des jalousies peuvent s'éveiller, qui peuvent être considérables.
Il n'y en a jamais eu. Aussi bien avec Bernard qu'avec Yves, j'ai su que j'avais une attitude de backstreet dans l'ombre, et que je devais me tenir à l'ombre de ces gens-là, et je l'ai fait. Oui, bien sûr. On aime que l'être qu'on aime et l'œuvre de l'être qu'on aime connaissent la gloire, mais aussi, s'il ne l'avait pas connu, je ne me serais pas parti à toutes jambes. C'est ça qui est aussi important. Il faut partager tout.
Sauf que ça ne s'est pas produit, que vous avez toujours eu des affaires avec des gens qui ont du succès, et ça vient peut-être aussi de ce que vous aviez contribué. On n'est pas seul à avoir du succès. C'est parce que vous avez su épauler ces gens-là que vous avez su. Ben si.
Oui, probablement. Je ne vais pas nier ça. Je ne vais pas nier ça.
Et vous aimez ça?
Et j'aime ça, mais j'ai l'habitude de dire que, si on parle d'Yves Saint-Laurent une seconde, que sans moi, il n'aurait pas fait cette maison de couture, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, mais il aurait fait autre chose.
Nous allons maintenant entendre Bernard Buffet à ses débuts. Il a 21 ans, il a une exposition personnelle dans une galerie de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il parle de ses tableaux, de ses naturemorts, de son peu d'intérêt pour le paysage. Et il n'est pas opposé à ce qu'on le qualifie de néo-réaliste. C'est extrait de L'art et de la vie du 13 février 1949.
Hier inconnu, le nom de Bernard Buffet est aujourd'hui presque célèbre. Il s'est manifesté dans plusieurs salons et la critique a vivement remarqué ses compositions et voici aujourd'hui sa première grande exposition. C'est une sorte d'événement qu'un très jeune peintre se montre ainsi dans une grande salle. Quel âge avez-vous, Bernard Buffet ?
21 ans.
Qu'à 21 ans, une grande galerie du Faubourg Saint-Honoré s'ouvre tout entière à un très jeune artiste qui montre, ce sont des grandes toiles, n'est-ce pas?
Une majorité de grandes toiles.
Et que sont-elles?
Les tout à fait grandes, des compositions et des natures mortes.
Vous pratiquez fort peu le paysage, est-ce que vous avez une aversion particulière pour la nature?
Non, mais le paysage en lui-même n'est pas très intéressant. Enfin, ça
ne vous intéresse pas essentiellement. Non. Est-ce que vous savez les mouvements divers qu'a provoqué votre peinture et les remous qu'elle a suscité dans les milieux de l'art abstrait qui vous ont collé l'étiquette, l'étiquette infamante de néo-réaliste? Que pensez-vous de cette opinion que certains ont émise sur vous?
Moi, je la trouve juste, si toutefois on ne voit pas le mauvais côté du néo-réalisme.
Mais en tout cas, vous, vous ne voyez pas ce mauvais côté, puisque vous vous déclarez, je crois, strictement fidèle à la réalité.
Oui, autant que pouvaient l'être quoi, les grands maîtres de la réalité.
Les grands maîtres de la réalité, et qui sont pour vous ces grands maîtres de la réalité?
Les primitifs.
Car vous vous situez, vous pensez, vous situez dans la lignée des primitifs, et plus particulièrement des primitifs français ou des primitifs italiens?
Français. Ah non, j'aime pas du tout les Italiens.
Vous n'aimez pas du tout les Italiens. Non. Eh bien, Bernard Buffet, nous continuerons à vous suivre avec une très grande sympathie, puisque nous vous avons déjà accueilli devant ce micro quand vous avez obtenu l'année dernière le Grand Prix de la Critique.
Pierre Berger, je voudrais que nous en venions à la deuxième partie de votre vie avec Bernard Buffet, c'est-à-dire à votre vie sans Bernard Buffet. Comment s'est passée la rupture? Et je ne vous pose la question que parce que dans la première partie de l'émission, vous nous aviez dit que c'était un moment dont vous n'étiez pas plus fier que ça.
Mais écoutez, si j'ai accepté de répondre à vos questions, c'est que depuis longtemps, j'ai fait le tri, et que depuis longtemps, j'ai décidé d'être honnête, autrement je ne viendrai pas vous voir. Il m'est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui ne s'en sont même pas aperçus. Mais moi, je m'en suis aperçu. Il est arrivé que je vivais avec Bernard Buffet, comme je vous ai dit l'autre jour. Nous n'avons pendant 8 ans rien fait de séparé, même pas un repas, qui est inimaginable. Et quand j'ai rencontré Yves Saint-Laurent, ben voilà. Mais, vous savez, moi je crois qu'on tombe amoureux quand on est prêt à tomber amoureux. Que tel homme ou telle femme que vous rencontrez, si vous n'êtes pas prêt, vous ne la voyez et vous ne le voyez même pas. Donc la question elle est là. Pourquoi étais-je prêt? Est-ce que j'avais complètement épuisé le mystère Buffet? Est-ce que je n'aimais plus beaucoup ce qu'il faisait? Est-ce que... Autant de questions que je suis en droit de me poser, que je me suis posé, et à laquelle je ne peux pas apporter de vraies réponses. Ce que je sais, c'est que... ma décision, et ce qui est triste et étonnant, c'est qu'elle n'a pas été dure à prendre, ma décision. Je suis parti.
Et vous êtes parti pour Yves Saint-Laurent?
Je suis parti pour Yves Saint-Laurent.
Les deux se sont rencontrés, je crois, bah, bien sûr.
Bah, bien sûr.
Et d'ailleurs, Buffet a fait au moins un portrait de...
Il a fait un portrait d'Yves Saint-Laurent. Et voilà, je me revois encore... prêt à partir pour assister à la collection d'Yves Saint-Laurent du mois d'août 58. Et...
Pardon de vous interrompre, Saint-Laurent était encore chez Dior ou c'était...
Ben oui, il était chez Dior, il avait pris la direction de Dior en février 58. Ça, c'était sa deuxième collection. Et voilà, j'allais partir et j'avais un peu bousculé Yves en disant « Tu es ridicule, ces histoires, viens ». Viens, il te reste encore une demi-heure, tu as le temps de te préparer pour venir à Paris, parce qu'on était à Aix-en-Provence. Et il m'a répondu non, et je te préviens que si tu pars, tu ne me retrouveras pas. Ben, ça s'est fait comme ça.
Buffet vous a dit ça, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Il m'a dit, si tu pars, tu ne me retrouveras pas. Et bon, ben, je ne l'ai pas retrouvé.
Vous en êtes encore triste?
Oui.
Sa vie a beaucoup changé, puisqu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Annabelle Buffet.
Oui.
Et il s'est marié avec elle.
Il s'est marié avec elle.
Qui était-elle, elle, d'ailleurs?
Elle était d'une fille d'une grande bourgeoisie juive Elle s'appelait Annabelle Schwab de Lure. Elle avait été une amie de Juliette Gréco. Elle avait tourné autour de tout ce monde de Saint-Germain-des-Prés, de la Périgueux. Mais je n'irai pas plus loin.
Est-ce que vous évoquiez à l'instant, Pierre Berger, votre éventuel éloignement de la peinture du Buffet aussi? Est-ce que vous ne diriez pas qu'une des causes du changement de sa peinture, c'était aussi un certain mode de vie qu'il a eu? Est-ce que justement la très grande gloire, l'argent, des choses comme ça ne sont pas... Évidemment, tout le monde le souhaite. Évidemment, Rubens était riche et ambassadeur, mais est-ce que ça n'est pas un risque quand on peint?
Rubens était riche et ambassadeur, mais il ne peignait pas des ronceurs et des poulets décharnés. Il y a, en effet, une dichotomie chez Buffet et une interrogation. Il roulait en Rolls-Royce, il habitait un château, il était riche, sinon ambassadeur, mais il continuait à peindre des ronceurs et des assiettes ébréchées sur des tables de cuisine. Il y a peut-être là une interrogation.
Est-ce que vous diriez qu'il n'est pas, vous qui l'avez connu, vous devez savoir si au départ il était comme ça, est-ce qu'il n'est pas allé vers une peinture plus conventionnelle, ou la convention était-elle déjà en lui? Je pense à une exposition de 1958, je ne sais pas si vous étiez encore là, puisque c'est à cette année-là que ça s'est joué, je crois, sur le thème de Jeanne d'Arc. C'est pas rien.
Si, j'étais là.
C'est pas rien de faire une exposition sur Jeanne d'Arc, même politiquement et même esthétiquement.
Il faut poser la question autrement, Charles Danzig. Il avait pris l'habitude de faire une exposition le premier vendredi de février avec sur des grands sujets et des grandes toiles. Tout ça, ça marche quand ça marche. Puis un beau jour, ça ne marche plus. Alors, on est à la recherche de grands sujets. Il a pris Jeanne d'Arc, il aurait pu prendre du Guesclin ou Napoléon, puisqu'il admirait tant le baron Gros. Et il avait bien raison, d'ailleurs. Donc Jeanne d'Arc est arrivée un peu par hasard. N'y voyait pas une intention, ni une intention patriotique, ni une intention religieuse, ni une intention de tout ordre comme ça. C'est parce qu'il fallait remplir des grandes toiles. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, Jeanne d'Arc, d'ailleurs.
D'ailleurs, dans votre livre, Pierre Berger, je ne parle pas du livre que vous avez écrit en 58 sur Buffet, mais « Des jours sans vent, je demeure », vous dites qu'il n'a jamais eu qu'un de ses problèmes et qu'il n'a jamais eu de grand marchand à l'image de Kahnweiler.
Ah oui. Bah oui.
Mais enfin, il n'était pas Picasso non plus, d'ailleurs.
Ah, ça, vous n'en savez rien. Et moi non plus.
Alors, justement, est-ce qu'il y a une très bonne période Buffet? Est-ce qu'il y a une période à sauver? Est-ce que c'est la période Pierre Berger? Est-ce que c'est...
J'ai réfléchi. Et je vais vous répondre honnêtement. C'est pas la période Pierre Berger, parce que ça serait très simple pour moi de dire, à partir du moment où j'ai claqué la porte du château, et il s'est abîmé dans ta mauvaise peinture, et faire toute une histoire romanesque. C'est pas vrai. Jeanne d'Arc, j'étais là. Quand il a peint des frigidaires, j'étais là. J'étais là pour beaucoup de choses. Et j'ai pas réagi. Ça aussi, ça me pose des problèmes. Et ça n'a pas cessé de m'en poser.
Mais oui, mais Pierre Berger, vous n'étiez pas sa conscience. Chaque artiste a sa propre conscience. Quand bien même auriez-vous dit, Bernard, arrête de faire Jeanne d'Arc.
Je l'aurais peut-être ouvert les yeux. C'est possible. Et quand je dis que ces marchands n'étaient pas Kahnweiler, ni Paul Guillaume, je veux dire qu'il n'avait pas un dialogue avec les marchands. Je veux dire, les marchands que Bernard a eus, c'était comme des épiciers. Il achetait, il vendait, il payait, il vendait, c'était des banquiers. Bernard ne savait pas ce que c'était que l'argent. Il n'en a jamais eu. Quand je l'ai quitté, il n'avait pas eu... Au moment où je l'ai quitté, il n'avait jamais eu un carnet de chèques.
Est-ce que vous ne diriez pas qu'une des... puisque je parlais dans mon introduction des raisons, si tant est qu'il y ait une seule raison à un suicide, et vous me direz ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Buffet a connu ce que Tennessee Williams appelle pour lui-même dans la préface d'une de ses pièces la catastrophe du succès? Et on veut bien encore une fois avoir du succès, mais il est très difficile d'avoir un énorme succès à 20, 21, 22, 23 ans, et d'autant plus qu'il a été l'incarnation d'une jeunesse.
Mais il ne s'est pas suicidé à 23 ans.
Non, mais c'est très difficile de supporter ça, parce qu'une fois que le moment où vous êtes l'incarnation de la jeunesse passe, vous n'êtes plus dans cette mode.
Écoutez, je me suis, vous l'imaginez, posé beaucoup de questions quant au suicide de Bernard Buffet. J'ai appris ça à la radio de ma voiture un jour, l'après-midi, et je ne pensais pas que ça me causerait un choc pareil. Le choc qui a duré des semaines, pour que j'accepte cela. Ce que je veux dire, c'est que Buffet est un des êtres les plus intelligents que je connaisse, que j'ai rencontré, et que je ne peux pas croire que cet homme ne portait pas sur sa peinture un regard honnête, précis. De là à dire que le regard était désabusé, je ne sais pas. S'est-il suicidé à cause de sa peinture, à cause du Parkinson, ou à cause d'autre chose? Nul ne le saura.
Vous dites vous-même dans votre livre qu'il était tombé dans l'alcoolisme, dans des excès.
Oui. Oui, c'est vrai, ça. Mais je ne peux pas porter des jugements sur les dernières années de sa vie, puisque je ne l'ai pas vu.
Vous avez cessé de le voir à partir du moment où vous avez rompu?
Non, je l'ai vu une fois, puisque vous m'avez lu, je le raconte. Voilà. Mais je l'ai vu une fois de son fait. Je veux dire, je ne l'ai pas vu plus d'une fois de son fait. Moi, j'aurais revu Bernard. Je considère, moi, qu'on ne les aime pas dans la vie.
Mais lui, peut-être.
Mais peut-être, c'est son droit.
C'était lui ou c'était Annabelle?
Mais je ne peux pas porter de jugement là-dessus, moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas désaimer, parce que c'est se renier soi-même. Et j'ai trop d'estime pour moi pour me renier.
Quand on voit les signatures de Bernard Buffet qui sont publiées pour authentification de ses œuvres et qu'on voit ces lettres en forme de losanges allongées, pareil à des parapluies les uns à côté des autres, est-ce que, Pierre Berger, le secret professionnel de Buffet, au fond, ça n'est pas la tristesse?
Oui, probablement. C'est une très très bonne question. Oui. Sa peinture, on ne danse pas de joie devant la peinture. Même, c'est même pas Bruegel, c'est même pas, même si Bruegel est très triste au fond. Oui, c'est une peinture assumant la tristesse, et je l'ai bien dit tout à l'heure, de l'occupation, de la guerre.
C'était Secret professionnel, le 229e. La semaine prochaine, nous irons à la recherche du secret professionnel des écrivains douteux. Réalisation Clotilde Pivin. Attaché d'émission Daphné Amiral. Prise de son Pierre Monteil. Recherche INA Sophie Chauveau. Dans un instant, une saison au théâtre.